exactement là sur l'horloge de Radio G. Regardez bien sur vos montres à gousset comme sur vos portables. Il est exactement 20h et c'est l'heure de Quasar on the Air. Désormais, sur Radio G, voyez-vous, il est tout nécessaire d'appuyer sur un bouton et la voix s'ouvre automatiquement. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Tout simplement que nous sommes passés de notre sympathique de chevaux à une nouvelle Rolls-Royce de console numérique. Pour vous, évidemment, rien ne change, vous qui nous suivez fidèlement sur Radio G 101.5. Mais pour nous, les petits malins qui nous amusons à vous retrouver régulièrement, toutes les émissions de Radio G, c'est une révolution, la révolution du numérique, avec un tout nouveau matériel. Alors on remercie les dirigeants de Radio G, les financeurs de cette Rolls-Royce, de cette nouvelle console. Et puis aussi, on va embrasser, il ne va pas se familiariser, Julien, qui a œuvré comme un malade pour que tout soit finalement bien installé, que l'émetteur ait un nouveau matériel aussi, puis d'autres vont arriver au fur et à mesure. Et vous allez nous pardonner quelques petits plantages éventuellement durant l'émission. On n'est pas encore tout à fait habitué à toutes ces nouvelles voix, mais autant vous dire que c'est bonheur bonheur avec un matériel tout nouveau et qu'on espère vous faire de plus belles émissions encore. Merci Julien, merci tout le monde. Autant ne pas vous le cacher, outre cette satisfaction et ce plaisir de manœuvrer cette nouvelle machine, on est très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé toutes et tous une très belle semaine. C'est même 15 jours, puisque ça fait déjà 15 jours, que nous ne nous étions pas entendus les uns les unes. La planète LGBT, elle, a complètement tourné sur elle-même aussi. Alors ben, c'est l'heure de faire l'agenda, si vous le voulez bien. C'est pratique, hein, ces boutons, vraiment. Alors, l'agenda de Quasar. Quasar, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous le répète, pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, c'est le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe plus, parce qu'il y a les non-binaires, il y a les polyamoureux, et puis il y a également ben, plein d'autres identités dont on pourra parler au cours des prochaines émissions avec plaisir. Alors, l'agenda de Quasar, eh bien, ce sont des rendez-vous, figurez-vous, du centre LGBTI+, d'Angers. D'abord, les permanences au 15 rue de Jérusalem, dans le quartier de Decroix-Banchet. Eh bien, il y a notre local. Et ce numéro 15, eh bien, on vous accueille tous les samedis pour tous les sujets possibles et imaginables. C'est une porte d'entrée, finalement. Si vous avez des questions, eh bien, on vous dirigera vers le pôle, éventuellement, si on n'a pas toutes les réponses. Et puis, s'il y a des questions plus pointues, eh bien, on vous rappellera et on vous recontactera. C'est tous les samedis, de 17h à 19h, au 15 rue de Jérusalem, les samedis 15, 22 et 29 octobre, ne serait-ce que pour ce mois d'octobre. Et puis, autre date aussi, toujours le samedi 15, mais cette fois-ci, attention, changement d'horaire, 15h30, 17h30, ça sera le rendez-vous de Transat. C'est le groupe d'échange safe pour les personnes transgenres, à genre, non-binaires et en questionnement. Ce sont des échanges, des partages qui sont menés par des membres de la team Transinter qui a pris ce nom durant l'été. Notez bien donc l'horaire 15h30 et non pas 15h comme habituellement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y aura juste avant une réunion entre les parents et les mineurs trans. Le vendredi 21 octobre, de 20h à 22h, traditionnel convivial, vous apportez de quoi grignoter, pain, et puis des plats chauds qu'on peut éventuellement réchauffer, donc, et puis de quoi boire aussi, et tout partager, tout ça, tous ensemble et tout ensemble. Samedi 22, un temps de dépistage anonyme et gratuit avec l'association AIDE, dépistage VIH, VIH, hépatite et IST par aide, donc avec les TROD, les fameux tests rapides. On pourra échanger également sur la santé sexuelle. C'est à Quasar de 14h à 17h, après-midi dépistage le samedi 22. On saute au mois de novembre déjà des dates importantes. Le 8 novembre de 19h à 21h, c'est le rendez-vous transparent pour les conjoints-conjointes, pour les parents d'enfants transgenres. Uniquement pour eux, ils discutent, ils se rencontrent et ils échangent avec des membres présents de l'équipe de la team Transinter. Le samedi 19 novembre, important, de 15h30 à 17h, non, de 15h cette fois-ci à 17h, à nouveau un numéro de Transat pour novembre. Et puis, notez bien pour finir, le lundi 24. Alors, le lundi 24 quoi ? Eh bien, novembre, vous aurez droit, si vous êtes sage, mais ça j'en suis sûr, à venir assister à la projection au ciné-débat de Enfants de malheur, le documentaire du pôle droit des étrangers pour parler des demandeuses et demandeurs d'asile LGBTI+. Ce sera au Folie Angevine, 6 avenue Montaigne, exactement, 19h30, avec toute l'équipe là-bas, et l'entrée est gratuite, mais attention, il faut s'inscrire avant sur le site des Folies Angevines. Nous reviendrons en fin d'émission sur cet agenda, mais on va se faire plaisir un petit peu pour les oreilles avec The Weeknd. I feel it coming avec les Daft Punk. Nous aussi, on sent que ça vient. Ça va bien, 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 bien avec nos invités qui arrivent.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. Been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
vrai bonheur de le retrouver ce week-end. Pour nous, on est un tout petit peu en avance, mais vous allez voir, on va en profiter. En profiter pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, pour accueillir notre premier invité. Et notre premier invité, c'est Kim. Bonsoir, Kim.
Bonsoir Stéphane.
Alors Kim, tu fais partie de la team Transinter de Quasar, ça veut dire qu'on se croise très 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 régulièrement. Et ce pourquoi je t'ai demandé de venir avec nous, c'est pour nous parler d'une prochaine organisation de la team Transinter qui est un dressing. Alors ça va être quoi ce dressing solidaire ? C'est quoi l'idée ?
Alors l'idée c'est que pour les personnes trans, on peut avoir des vêtements qui sont dans notre dressing, dans nos penderies, qu'on n'utilise plus parce que ils ne nous conviennent plus. Et en fait, ces vêtements, on a envie de les valoriser au niveau de la communauté en les proposant à d'autres personnes qui sont dans une démarche de transition. Donc l'objectif, c'est d'être dans une démarche solidaire et de proposer des vêtements à moindre prix et de rendre service. Finalement.
Alors, c'est prévu pour quelle date exactement ?
Alors, exactement, l'achat et l'événement solidaire se déroulera le 29 octobre 2022.
Donc c'est un mois. Samedi ?
C'est un samedi. Par contre, je tiens à préciser que le 28, spécifiquement entre 17h et 19h, on compte sur vous pour venir déposer vos anciens vêtements que vous n'utiliserez plus.
Alors, il y a deux temps, si on comprend bien. Le vendredi 28, les gens viennent de 17 à 19 déposer leurs vêtements. Alors, il y aura tout un système d'enregistrement, d'étiquetage que vous réaliserez, vous l'équipe. Et puis, à partir donc du samedi 29, à quelle heure ?
Alors l'événement du 29 sera de 14h à 18h, donc sur voilà. 4h.
On viendra essayer, il y aura des cabines d'essayage, et vous pourrez évidemment à petit prix. Et donc quand les gens vont venir vendredi 28 déposer leurs vêtements entre 17h et 19h, il y aura deux options pour ces personnes, tu peux nous dire lesquelles ?
Les options qui seront proposées, si je me trompe pas, c'est de proposer les vêtements à un prix symbolique qui serait au minimum d'un euro. Et dans l'autre cas, on peut aussi comprendre que la personne souhaite se séparer d'un vêtement en fixant un prix à l'avance qui sera voilà. Du coup respecté.
Voilà, donc il y aurait un euro. On dit tout de suite aussi que pour les frais d'organisation, les isoloirs et tout qui vont être facturés à Quasar, chaque vêtement vendu, il y a un euro qui reviendra à l'association pour financer justement cette location de matériel. Donc finalement, ça reste extrêmement solidaire. Et ce besoin de pouvoir modifier sa garde-robe intervient dans les moments de transition au début, quand c'est bien entamé. Comment est-ce qu'on s'approprie finalement une garde-robe quand on est une personne transgenre ?
Eh bien, souvent quand on n'a pas forcément eu la possibilité d'expérimenter, d'aller sur un autre territoire, sur d'autres sentiers battus que ceux de notre genre d'assignation, ça peut être compliqué d'essayer de nouvelles choses et surtout au niveau du budget. Ça peut être compliqué d'aller en boutique, surtout mettons si on est une femme trans, d'arriver dans une boutique pour femmes, on n'est pas forcément toujours bien accueilli, ou on peut avoir des représentations, peur de gêner, des choses comme ça. Du coup avoir cette première approche, ou même que ça soit pas une première approche, personnellement je vais facilement m'acheter des vêtements même dans des boutiques physiques, mais je trouve ça quand même très intéressant de pouvoir avoir des petits moments communautaires comme ça où on se retrouve et on sait que de toute façon, il y aura pas de problème. Je me dis que pour des personnes débutantes, même comme pour des plus confirmées, ça peut vraiment être une rencontre qui aide à expérimenter, à gagner en confiance et à ne pas se ruiner aussi, parce que c'est vrai la première fois que j'ai été faire des courses, mon porte-monnaie a souffert et je suis contente d'avoir pu me le permettre, mais c'est pas une possibilité qui est accessible à tout le monde.
Et ça veut dire que ce samedi après-midi, il y a des membres de la team trans qui sont là, qui pourront conseiller, qui pourront expliquer, et vraiment être au plus près.
C'est l'objectif. On a vraiment envie que les gens se sentent à l'aise et puis puisse participer assez facilement, que ça soit aisé, naturel.
Donc là, c'est un premier numéro de dressing.
Tout à fait, c'est la première fois qu'on a ce genre d'événement. Et...
Sur Angers en même temps.
Sur Angers.
Voilà, donc on va bien communiquer d'ici là, le 29, et inviter toutes celles et tous ceux. Moi j'ai une question qui n'est pas piège, mais je suis cisgenre et allié, est-ce que je peux venir déposer aussi des vêtements pour les personnes trans ?
Je pense qu'il n'y a aucun problème pour venir déposer les vêtements donc le 28, et que concrètement ça peut tout à fait nous dépanner.
Enfin, tout à fait. Mais ce qu'on demande par contre, c'est que le samedi dans l'après-midi, on ne laisse que les personnes transgenres, à genre et non binaires, être entre elles de façon à pouvoir faire ces essayages tranquilles sans que les personnes, même alliées, viennent mettre leur nez et leurs affaires dans ces moments-là. On est d'accord.
Voilà, c'est un petit moment privilégié et on veut que les personnes, surtout celles qui entament une transition, se sentent soutenus, pas menacés, n'angoissent pas. Et
voilà. Donc, ça c'est une activité, mais ce n'est qu'une activité de la team trans inter. Donc, puisque tu es là et que certainement Charlie, Alix, Amélie et puis d'autres nous écoutent et on les salue, est-ce que, et puis aussi Anastase évidemment, à qui on adresse, bon, plein de vœux, et Anastase sait très bien pourquoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les temps de la team trans inter, comment est-ce que ça se passe, et puis les rendez-vous que l'on donne, et puis comment ça se passe, comment toi tu t'es intégré, comment tu vis ces temps à chaque fois, est-ce que tu peux nous en parler?
D'accord. Ben, pour commencer, je me suis mis en lien avec Quasar puis la team Trans Inter, parce que j'avais moi-même des besoins d'accompagnement et de recours judiciaire sur une démarche de changement de prénom, en fait, spécifiquement. Et puis en me penchant sur ce sujet, sur cette thématique, je me suis rendu compte qu'il y avait un assez large panel de problématiques à adresser pour les personnes trans et intersexes, et aussi bien pour me préparer à mes propres démarches que pour rendre à la communauté un service, je me suis engagé, et donc les activités qu'on peut proposer dans ce pôle de Quasar, ça va être par exemple l'atelier Transat. Donc l'atelier Transat, c'est un moment où dans le mois, on se retrouve, et quand je dis on, c'est les personnes trans et inter, pour un atelier d'échange où on va être peut-être une dizaine de personnes en non-mixité, et on va pouvoir parler dans ces moments-là des problèmes, des situations auxquelles nous sommes confrontés pour... Je ne sais pas exactement si je peux vous simplifier l'objectif de ces séances à chaque fois, mais c'est un moment privilégié où on peut échanger sur des thématiques qui nous intéressent.
Voilà. Et ça reste vraiment ce qui s'échange dans ce temps-là, dans ce temps non mixte, et assumé non mixte, ce n'est pas une problématique. Non mixte, ça veut dire par là que les personnes cisgenres et alliées ne sont pas invitées à rester. Voilà. Même moi, je n'y assiste pas. Et c'est important.
Tout à fait. Et puis, à côté de ça, on a des activités un petit peu plus mixtes, en fin de compte, puisqu'on propose aussi un atelier transparent qui consiste à accueillir les proches, les familles, les conjoints, conjointes, des personnes trans inter qui auraient des questionnements, des demandes, et qui souhaitent des informations, et qui peuvent, dans ces moments-là, interroger, s'entretenir avec les personnes qui composent la team trans.
Voilà.
Et toi-même.
Ça veut dire quand même que dans ces temps où on accueille ses parents, ses conjoints, ces gens qui sont des fois un peu perdus, qui viennent avec des tonnes de questions ou qui ont une problématique particulière qu'ils ou elles viennent exprimer, on est tout à fait dans l'acceptation des mots inexacts, des mégenrages et ainsi de suite. Simplement, on explique pourquoi c'est important. On redit les points de vigilance qu'il faut avoir, et puis on explique tous les petits trucs qui permettent de se familiariser finalement. C'est ça?
Tout à fait, il s'agit pas de sanctionner les gens parce qu'ils se sont trompés, c'est on permet d'avoir une première approche ou un suivi comme une forme de permanence pour ces personnes qui peuvent revenir nous voir, nous donner des nouvelles de leur propre avancée, et c'est important que ces personnes aient aussi leur lieu en fait pour discuter de ces thématiques, mais qu'ils soient un lieu pour le coup séparé de celui de Transat par exemple.
Alors je rectifie parce que dans l'équipe Team Transinter, j'ai oublié de citer Colline et c'était vraiment très important de ne pas t'oublier Colline, et on pense bien à toi aussi. Dans l'activité de la Team Transinter, il y a aussi les rendez-vous individuels. Qu'est-ce que tu en retires toi de toutes ces situations, de ces personnes diverses et variées, parfois des rendez-vous familiaux, des rendez-vous individuels? Comment tu ressens ça toi?
Alors, en première instance, j'ai moi-même ressenti la confusion, les questionnements, la détresse parfois qu'on peut avoir quand on se tourne vers une association. Et ce que je remarque par contre en tant que personne écoutante, c'est que on a souvent le même genre de remarques qui reviennent. Au départ, on a des questionnements, une personne qui se dit « bon, finalement, il y a des choses chez moi » qui ne correspondent pas à la norme, des questions plus techniques du type j'ai envie de changer de prénom, comment est-ce que je peux faire, j'ai envie de changer de sexe à l'état civil, j'ai envie d'avoir un traitement médicamenteux ou pas, un traitement hormonal du coup substitutif. Mmh. Et en fin de compte, on va nous poser des questions sur la transition, et puis nous on va pouvoir apporter des éléments de réponse en tant que personne concernée, essayer de peindre les contours de ce qu'il se passe au niveau des hôtels de ville, du tribunal pour ce qui concerne les changements de prénom, de l'ambiance locale par rapport au CHU, donc aux hôpitaux et aux médecins, puisque si on souhaite une transition médicalisée, il faut parfois passer par là. Et donc on essaye d'accompagner les personnes pour que les transitions se fassent avec le moins d'angoisse, le plus d'accompagnement possible, parce qu'on reste quand même sur une population qui est minorisée et qui peut être mise en état de vulnérabilité à cause d'une forme de, je pose le mot, d'errance médicale, par exemple.
Parfaitement, oui. Alors, puisque tu l'as abordé, juste de repréciser que le prénom, peut-être le changement de prénom a été facilité depuis 2016 et la circulaire de 2017 du ministère. Et donc, on peut effectuer sa demande de changement de prénom en service d'état civil de sa mairie de naissance ou de lieu d'habitation, mais on peut aussi demander le changement de prénom en même temps que le changement, ce qu'on appelle d'état civil, c'est-à-dire de la mention du sexe à l'état civil, devant le tribunal judiciaire. On peut joindre les deux demandes dans une seule et même requête. Et c'est pour ça que on propose, nous, des modèles de requête éventuellement qui font effectivement qui sont en tout cas plus complets que les modèles très basiques donnés dans les états civils de mairie ou dans les grèves de tribunaux judiciaires, parce que leur avantage de ces modèles, c'est que tant pour le changement de prénom que pour le changement d'état civil, il est rappelé tous les articles de loi, toutes les circulaires qui évitent effectivement aux services et aux juges de faire comme ils souhaitent et comme ils veulent et de s'exonérer de ces textes-là en faisant mine de ne pas les connaître. C'est un point super important, ça. On l'a remarqué. Dans les difficultés, par exemple, de changement de prénom, comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces cas-là et quelles sont les causes les plus fréquentes, selon toi?
J'aurais tendance à dire que ça dépend beaucoup de la personne qui reçoit le dossier, de si on a une apparence qui va être plus ou moins binaire, c'est-à-dire est-ce qu'on a l'air d'être une femme, un homme, cisgenre, en quelque sorte. Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Par exemple, pour ma part, en tant que personne non-binaire, il est possible que, quand je suis confronté à des instances officielles, on se dise « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne vais pas le valider, finalement. » Et alors, moi, mon prénom a été refusé avec comme motif que je ne l'utilisais pas depuis assez longtemps par l'hôtel de ville. Donc ce refus a été exprimé, j'utilisais ce prénom dans toutes les sphères de ma vie, absolument, depuis environ 5 mois. Et donc quand on vous refuse un prénom au niveau de l'hôtel de ville, votre demande de changement de prénom à l'état civil est envoyée au tribunal et ensuite...
Au procureur, exactement. Au procureur qui s'occupe de l'état civil, justement.
Et le procureur va ensuite rendre un avis, une décision sur ce dossier. Et dans ma situation, j'ai pu attendre tout l'été et recevoir un refus qui m'expliquait que... Eh bien, j'employais mon prénom depuis pas assez longtemps.
Oui, c'est assez interrogatif quand même comme situation, vu que ce n'est absolument pas dans les textes de loi. Donc, il y a vraiment une interrogation. Mais de toute façon, cet argument-là ne pourra plus être utilisé dans quelques mois. Donc, c'est reculer pour mieux sauter finalement. Mais bon, voilà, problème toujours de se heurter à ça, et c'est toujours extrêmement embêtant. Écoute, on te remercie d'avoir pris et enfourché ton vélo pour nous rejoindre. On va se quitter là. On rappelle le dressing, les dates et les jours.
Alors, le dressing se déroulera le 29 octobre de 14h à 18h. Là, ce sera le principal événement où vous pourrez venir si vous êtes transé en questionnement, essayer des vêtements, les acheter. Et puis, de 17h à 19h le 28, le vendredi, donc, ce sera le moment de déposer vos affaires.
C'est ça.
Et d'en faire don.
Voilà, merci beaucoup Kim, et bonne soirée à toi.
Merci à toi Stéphane.
Ciao. La belle époque, notre vieillerie du soir. Disco Inferno. Allez, on monte sur les manèges, on tire la queue du Mickey. Remarquez, à l'époque, hein, dans les clubs, ils tiraient aussi la queue du Mickey, mais ce n'était pas une souris ni une peluche, c'était Mickey lui-même. The Tramps sur Radio G.
Let's
émission Jeunes et Beaux et Belles, Disco Inferno, Radio G, Quasar on the air, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans, plus, trans et i pour intersexe, plus. Nouvelle invitée dans ce Quasar on the air pour parler d'un reportage qui a fait polémique et pour cause, qui a été diffusé il y a juste une semaine, le 6 octobre, sur M6, et qui parlait, qui traitait des personnes transgenres, mais surtout sous l'angle des familles. Et beaucoup d'associations ont signé un texte de France Genre, disant effectivement toute la difficulté à la conception et au débat aussi qui régnait autour de ce reportage. Invitée au téléphone, bonsoir, Rachel Gara-Valcarcel. Vous êtes co-présidente de...
Ancienne co-présidente.
Voilà, ancienne co-présidente. Enfin, bon, dans le cœur toujours un peu, je suppose.
Bien sûr.
C'est ça. On vous connaît, voyons. De l'AJLGBT, l'association des journalistes LGBT. Elle remonte la création à quelle date pour l'AJLGBT ?
Alors, l'association, elle s'est créée en 2013 après les débats sur le mariage pour tous, à une époque où des, je n'y étais pas à l'époque, mais des journalistes LGBT de rédaction parisienne surtout se sont réunis en se disant c'est pas possible ce qui s'est passé pendant le mariage pour tous, le traitement médiatique a été catastrophique, il faut créer une association qui puisse faire pression, qui puisse militer sur la question d'une meilleure représentation et un meilleur traitement des questions et des personnes LGBT.
Et donc, l'association créée, son activité, est-ce qu'elle a changé entre cette époque de la manif pour tous et aujourd'hui? Est-ce que les problématiques ont évolué et qu'est-ce qu'elle a créé? Parce qu'il me semble qu'il y a une cérémonie aussi qu'elle a créée.
Alors, ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses. On a d'abord fait une charte à destination des rédactions pour essayer de faire en sorte qu'elle s'engage sur un meilleur traitement. On a aussi fait un kit qui est très lu par les journalistes, mais aussi au-delà, on s'est aperçu qu'il y a plein de personnes qui lisent ce kit, en fait, donc qui s'appelle Informer sans discriminer, que vous pouvez retrouver sur le site de la JL, qui est une sorte d'introduction et une formation des journalistes pour un meilleur traitement des personnes LGBTI. Il y a un chapitre sur les personnes trans, un chapitre sur l'invisibilisation des lesbiennes, la PMA, sur les gays, la folophobie, enfin, il y a plein de sujets comme ça qu'on traite et on le met à jour assez régulièrement. On fait des formations dans des écoles de journalisme, notamment. Et puis, je vous dis ça en pêle-mêle, mais notre événement phare qui s'appelle les Outdoors, qui ont été créés en juin 2017 et qui récompensent, enfin ce sont les prix de la visibilité LGBTI. En fait, on récompense des productions journalistiques, mais aussi des personnalités pour leur visibilité dans l'espace public. Et la dernière cérémonie a eu lieu en décembre en décembre 2021, l'année dernière, et les vidéos de ces cérémonies sont toujours disponibles sur le YouTube de la JL.
Est-ce qu'on connaît la date de l'édition 2022?
Alors, il n'y aura pas d'édition en 2022. Pour l'instant, on regarde peut-être pour l'été prochain. Mais voilà, ce sont des organisations qui sont très lourdes. Oui, et c'est pas toujours simple pour les associations. On ne vit que de subventions. Hein, donc, c'est aussi un aléa.
Alors, on vous a invité, Rachel Gara-Valcarcel, parce que, en tant que membre de la JL, l'association a vivement réagi à la diffusion et à l'organisation du débat qui suivait le documentaire sur les personnes transgenres et l'accueil de la nouvelle dans les familles diffusée sur M6, comme je le disais. C'était un texte qui était à l'initiative de la structure de l'association France Genre et qui a été signé notamment par Quasar et plein d'autres aussi.
Pour le coup, la JL n'a pas signé ce texte, même si on n'a aucun souci avec ce texte. Hein. Bien sûr, on a fait un trade avant l'émission parce que ce qu'on en savait, on en savait déjà pas mal, nous paraissait déjà inacceptable, et on a sorti un communiqué de presse hier où on a annoncé saisir l'ARCOM, le nouveau nom du CSA, comme d'autres associations l'ont fait d'ailleurs.
Alors, est-ce qu'on peut entrer maintenant dans les raisons, non pas les raisons évoquées dans le communiqué de France Genre que nous avons signé, mais de votre regard professionnel qui juge le travail d'autres collègues professionnels, les points, vous, qui vous ont particulièrement alerté et qui sont, à votre avis, inadmissibles?
Bon, je pense qu'il faut diviser la soirée en deux moments. Comme vous l'avez rappelé, il y avait d'abord un documentaire qui suivait trois personnes trans d'âges différents. Il y avait un homme trans de 18 ans, une femme trans de 34 ans, une femme trans de la cinquantaine, je dirais. J'ai un doute là-dessus. Je dirais que ce documentaire, il est banalement irrespectueux, si vous voulez. Les personnes trans sont très habituées à ce que la télévision, notamment, traite mal les enjeux qui concernent les personnes trans. Donc, on n'est pas si étonné que ça. Je prends un exemple. C'est souvent une question le mot m'échappe. On rend les choses spectaculaires, si vous voulez.
C'est ça. Il y a une forme de sensationnalisme, c'est ça?
Voilà, de sensationnalisme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Surtout dans le avant-après, ça, la télé adore montrer à quoi ressemblaient les personnes trans avant leur transition.
Alors que ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun.
Mais ça n'a aucun intérêt. Chaque personne trans fait comme elle le sent, si vous voulez. Après, c'est pas tout à fait la même chose de garder une photo de soi avant sur son profil Facebook que de la montrer à des millions de téléspectateurs à la télé, quoi. Mais je veux pas qu'on croie que je critique les personnes trans qui étaient dans ce documentaire, pas du tout. Moi, mon problème, c'est la réalisation. Mon problème et le problème de la JN, c'est la réalisation. Dans le côté spectaculaire, il y a aussi des nombreuses images de personnes trans nues. On voit beaucoup l'homme trans dans la piscine de ses parents. Bon, évidemment, on insiste lourdement sur les cicatrices de sa mammectomie. Voilà. C'est au bout d'un moment, ça devient particulièrement bizarre. Et puis, vous avez aussi des trucs de mise en scène. Mais ça, qui sont éculés. C'est-à-dire que les femmes trans, on les voit tout le temps en train de se maquiller. Parce qu'évidemment, une femme trans qui ne se maquille pas, mais est-elle vraiment une femme, finalement?
Voilà, c'est la vraie question qui se pose pour eux, en tout cas.
Voilà, exactement. Donc, je veux noter aussi un bon point, quand même, dans ce documentaire. Ce que dit la JL, c'est que le témoignage de personnes trans, ok, très bien. Mais ce qui est aussi bien, ça serait quand même désormais de passer une nouvelle étape, c'est-à-dire de pouvoir faire parler des personnes trans qui ont aussi un engagement militant, quoi. Sauf que pour les médias, bien souvent, militant veut dire personne non neutre ou quoi que ce soit. Enfin, personne n'est objectif. Évidemment, un militant pas plus qu'une personne qui n'est pas politisée. Parce que ça permet de faire monter d'autres sujets, la question des discriminations, les questions de précarité des personnes trans, et ce ne sont là que deux sujets parmi d'autres, évidemment. Le seul bon point de ce documentaire, c'était donc le moment où, effectivement, on voit, pendant 6 minutes, j'ai compté 6 ou 7 minutes sur 1h45 de documentaire, on parle des problèmes de grande précarité d'une des témoins. Et pour le coup, là, c'est vraiment bien fait. Il y a une caméra cachée avec des employeurs qui se moquent d'elle, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est très bien, mais c'est beaucoup trop limité par rapport... Et tout est noyé dans le reste, si vous voulez.
Alors, allez-y, pardon.
Non, mais après, il y a la deuxième partie. Il y a la deuxième partie qui, là, pour le coup... est grave. Vraiment, je crois qu'il faut utiliser le mot « est grave ».
Alors, il faut expliquer exactement pourquoi.
Alors, la deuxième partie, en fait, c'est un débat qui était enregistré, qui avait comme titre « Enfant trans, que faire ?». Déjà, je trouve le titre quand même extrêmement violent. On a l'impression de retourner des décennies en arrière sur les questions LGBT avec ce genre de titre.
Ah oui.
Et vous aviez un dispositif qui... est critiqué depuis longtemps par la JL, c'est-à-dire vous aviez d'un côté de la table une personne trans, un médecin, et de l'autre côté de la table, deux personnes très ouvertement transphobes qui font partie de collectifs très ouvertement transphobes. Je veux dire, on n'invente rien du tout, quoi. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elles sont là, en fait. Donc, vous comprenez bien que dans ce type de dispositif pour-contre, ben évidemment, les personnes trans, elles ne peuvent pas s'en sortir. Ça n'est pas possible. Surtout que la personne trans très courageuse qui a été, ben voilà, elle a 18 ans, le dispositif lui est extrêmement défavorable. C'est difficile de s'en sortir dans ce contexte-là. Et dans ce débat, on a eu droit, mais c'était absolument prévisible, puisque ces collectifs sont connus pour ça, à des propos outranciers, à des fake news, à des propos parfaitement haineux contre les personnes trans qui ne sont à peu près jamais repris par Karine Lemarchand qui présentait ce débat. Ce n'est pas normal. M6 et tous les médias, M6 en l'occurrence, ont une responsabilité éditoriale. Il faut savoir tenir son antenne. Ce n'est pas possible de laisser se déverser ce genre de flot de haine à une heure de grande écoute sur une grande chaîne.
Alors, pour que ça soit clair pour tout le monde, dans le métier, on appelle ça sourcer les informations et ne jamais lâcher la personne qui dit une information, qui prétend une information erronée et apporter éventuellement un rectificatif immédiatement.
Alors, vous avez raison, il y a de ça, mais on va plus loin. En fait, le dispositif de ces débats n'est pas acceptable. Le débat sur les personnes trans, enfin, il y a des tas de questions à se poser, et toutes les personnes trans sont pas d'accord, d'ailleurs, et pourquoi pas. Il y a des tas de questions à se poser. Mais le débat peut pas être pour ou contre. C'est pas possible. Voilà. Et le débat peut pas être posé dans les termes 10 secondes pour une personne trans, 30 secondes pour les transphobes. C'est pas possible. Ce n'est pas acceptable.
Et c'est bien ça qui a posé le problème. Alors, l'association France Genre avait déjà indiqué cette problématique et nous avions répondu, mais c'est exactement comme si on se replongeait au temps de Ménie Grégoire, Choletaise, je le rappelle, l'homosexualité, ce douloureux problème, et bim, on revient en plein dans le panneau. Et c'est comme si aujourd'hui, un reportage parlait encore une fois d'homosexualité ou de lesbianisme et qu'on invitait Tony Anatrella pour dans le camp des opposants, comme si nos identités, nos orientations sexuelles étaient discutables et qu'on pouvait les effacer finalement, parce que on en fait quoi de ces enfants transgenres? On les efface ou on s'occupe d'eux réellement et correctement?
Vous avez complètement raison, et vous avez raison, la référence à Ménie Grégoire est la bonne, parce que d'une certaine manière, je ne sais pas si les auditeurs et auditrices ont les extraits en tête, mais Ménie Grégoire, elle se présente comme une sorte de madame loyale modérée au milieu de tout ça, en disant il y a bien des problèmes qui sont posés quand même. Et Karine Lemarchand, elle fait pareil, il y a bien des problèmes. En fait, oui et non, en fait. Le problème, c'est l'accès des personnes trans à des traitements ou des transitions qui leur permettent d'aller mieux. C'est prouvé que ça fonctionne. Et j'ajoute, qu'on parle beaucoup des détransitions en ce moment, les détransitions, ça existe, c'est extrêmement minoritaire, mais vraiment le mot minoritaire est même déjà trop grand. Et par ailleurs, et c'est une bonne chose, on commence à voir apparaître des témoignages de personnes qui ont détransitionné en disant « mais ce n'est pas un drame en fait, ça fait partie de mon parcours et
exactement.
C'est comme ça
voilà. ». Et donc, ça fait partie des points aussi qui sont à soulever. Un grand merci, en tout cas, Rachel Gara-Valcarcel. Vous saluerez toute l'équipe de la JL. Et je suis sûr qu'on aura à faire pour aider nos journalistes locaux à progresser. J'en suis absolument certain. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Voici Pomme, mais quelque chose de grandiose quand même.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une. grandiose, grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Moi qui dis tu n'es pas comme les autres, des filles prendront ton cœur à toi, bats-toi, t'auras une vie grandiose, grandiose.
Belle vie, celle de Pomme. Ce soir dans Quasar on the Air, nous poursuivons notre chemin, un chemin avec des invités en direct au téléphone ou physiquement dans les studios de Radio G pour aborder un autre point que vous avez déjà entendu dans l'agenda dont je vous ai parlé juste en ouverture d'émission, celui du dépistage anonyme et gratuit sous forme de TROD. On accueille au téléphone maintenant Philippe Rossignol. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Alors Philippe Rossignol, toi tu es volontaire à Laval pour et élu de Aide Pays de la Loire, et donc on a demandé à notre partenaire Aide de nous rejoindre ce soir au téléphone, puisque vous êtes les intervenants prévus samedi 22 octobre prochain dans les locaux de Quasar, de 14h à 17h. Et là, des gens qui vont être avertis vont venir vous rencontrer, vous les volontaires, les salariés de Aide, et on va les accueillir, nous Quasar et ainsi de suite, et les autres assos, et vous allez dépister. Alors le dépistage, en réalité, là, c'est un dépistage sur les thématiques VIH, hépatite et pas encore IST, puisque les TROD et IST ne sont pas encore au point. Hein. C'est bien, tu confirmes bien ce point.
Oui, sauf dans certains sites tests dans Aide où on a commencé à développer le TROD syphilis.
Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est en cours d'arriver dans les différentes antennes et dans les lieux où oui. On dépiste. Alors, le dépistage, oui. Pourquoi est-ce qu'on s'est associé à Aide? Je crois qu'il faut le dire, c'est extrêmement important en période de Covid, pendant 2 ans de saturation, puis ça continue, puisqu'autour de nous, plein de gens le contractent le Covid avec une nouvelle source. Assez résistante d'ailleurs, et puis on a gâteau sur la cerise, ou la cerise sur le gâteau comme on veut, cette variole du singe. Alors on peut peut-être commencer par variole du singe tout de suite, pour donner des nouvelles et les derniers chiffres qu'on connaît en France et que vous, Aide, vous connaissez.
Alors j'ai pas de chiffres précis,
la tendance,
on va dire, voilà. La tendance, oui. La tendance, bon, la vaccination a commencé relativement tôt. Donc on a passé la première vague, il pourrait y en avoir une deuxième. Ce qui est à retenir, c'est que la variole du singe, le monkeypox, touche à 95-97% les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, qui font partie de nos publics prioritaires. Et à Laval, où moi je suis, mais dans d'autres lieux, nous tenons des permanences hospitalières dans les centres fédératifs de prévention et de dépistage, c'est-à-dire dans les hôpitaux, pour aller à la rencontre de cette population.
Alors ça, Philippe, c'est un point douloureux pour le 49, puisque Aide ne peut pas rentrer apparemment au Cégide ou plus exactement au SMIT, et ça, c'est des questions douloureuses locales. Donc tant mieux que ça oui. puisse avoir lieu dans d'autres départements où on est un peu plus avancé. Bref, on ferme la parenthèse, et donc on se dit que être toujours attentif au monkeypox, même s'il y avait une tendance à la baisse, une deuxième vague est toujours possible. Donc les HSH, on rappelle, les personnes ayant des relations sexuelles avec des hommes. On emploie cet acronyme-là, pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de personnes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui ne se définissent pas comme homosexuels ou gays eux-mêmes. Donc c'est un cercle beaucoup plus élargi en réalité. Donc, ces nouvelles étant posées, la vaccination toujours possible. Alors on revient au dépistage maintenant, Philippe, si tu veux bien. Et on rappelle pourquoi. Alors le TROD, c'est quoi exactement ? On rappelle ce que c'est, s'il te plaît.
Oui. Alors, TROD, ça veut dire test rapide à orientation de diagnostic. C'est un test à résultat immédiat. Enfin, quand je dis immédiat, c'est 1 à 20 minutes. Et c'est chez Aide systématiquement encadré par un entretien pré-test qui est destiné à vérifier une éventuelle exposition au VIH, sachant que le résultat pour un test négatif n'est garanti pour tous les tests, que ce soit VIH, hépatite B, hépatite C, le résultat négatif n'est garanti qu'au bout de 3 mois après une éventuelle exposition. Un test, un TROD positif doit faire, il y en a 25 000 qui sont pratiqués à Aide au niveau national. Un test positif doit être confirmé.
Voilà, par une prise de sang dans un service hospitalier ou dans un labo. On fait une parenthèse, on rappelle que il y a également du dépistage possible maintenant dans les labos sans ordonnance. On arrive, on dit qu'on veut profiter de cette nouvelle disposition et avec rendez-vous éventuellement, et la prise de sang est effectuée. Reste évidemment toujours la question de ne pas rester seul sur un résultat positif et de ne pas le mettre à la poubelle et d'être entouré très rapidement. Évidemment, ça, c'est la condition. On referme la parenthèse, on revient au TROD. Donc, quand vous allez arriver volontaire et salarié le 22 octobre prochain dans les locaux de Quasar, vous allez faire quoi ? Vous allez vous mettre les uns loin des autres, vous allez être dans une salle commune et puis vous allez vous isoler. Comment vous procédez habituellement ?
Alors, il peut y avoir un accueil collectif où on va présenter les modes de contamination qui ne sont pas toujours connus par même des fois pas du tout par les personnes concernées. Ensuite, quand on passe au dépistage à proprement parler, donc il y a un entretien individuel confidentiel et sans jugement avec la personne
dans une autre pièce.
Le TROD dans une pièce à l'écart,
voilà.
Et à l'écart de toute personne. Et le TROD, ça consiste en une petite ponction au bout du doigt, et on prélève une petite quantité de sang qu'on utilise avec les tests disponibles, VIH, VHB, VHC. Et puis un petit temps, pendant le temps de migration du sang dans la cassette de test, on demande à la personne de sortir de la salle et de rejoindre les collègues à côté, en sachant que on peut pas faire un dépistage seul, hein. C'est minimum de personnes, un exact. Accueillant et une personne qui dépiste.
Voilà, c'est ça.
Une fois qu'on a le résultat, on rappelle la personne, on lui annonce le résultat, et selon le résultat, elle est accompagnée selon sa volonté vers le test de confirmation. Ça reste au choix de chacun.
D'accord. Et puis si c'est négatif, c'est toujours aussi accompagné dans le sens où c'est pas la fête du slip tout et n'importe comment.
Absolument, parce que parfois un test négatif, ça peut être une surprise. Il y a des personnes qui sont persuadées qu'elles ont été contaminées parce qu'elles ont peut-être eu des rapports sexuels multiples avec et voilà. multipartenaires. Voilà. Et un test négatif peut être une surprise. Donc l'entretien post-test reste indispensable.
Voilà. Et puis c'est surtout l'occasion de parler de réduction des risques, des pratiques, de les interroger, de voir comment on peut les adapter. Et puis surtout parler de santé sexuelle parce que c'est aussi extrêmement important. On peut faire attention à sa santé uniquement quand tout va bien dans sa vie. Évidemment, quand il y a des préoccupations lourdes, c'est beaucoup moins facile et les problématiques peuvent se poser à ce moment-là.
On a à ce sujet un outil extrêmement pratique qui est un petit qui se présente sous la forme d'un petit éventail qui recense tous les modes de prévention et de prévention et de comment dire de soins
adaptés
contre le VIH.
Oui.
Donc il y a alors faut rappeler qu'il existe le traitement d'urgence. Mmh. Une personne qui pense avoir été exposée au VIH peut se rendre dans n'importe quel service d'urgence d'un hôpital où on lui délivrera un kit de démarrage anti VIH. Mm-hmm. La personne sera vue dans les jours suivants par un infectiologue qui évaluera le risque. Il y a pour les usagers de drogue la distribution, la mise à disposition de matériel de consommation à usage unique.
Voilà.
qui a donné de gros résultats puisque maintenant on en est à une incidence de 2% chez les usagers de drogue alors qu'on était à je sais plus combien, enfin 30%
beaucoup plus élevé. On va être obligé de se quitter, Philippe. Merci pour ces informations. On donne rendez-vous donc aux volontaires et aux professionnels, aux salariés de Aide qui seront présents en nombre le samedi 22 octobre dans les locaux de Quasar, 15 rue de Jérusalem. Belle soirée là-bas à Laval, tout proche.
Est-ce que j'ai le temps de dire juste une
Allez,
petite phrase ?
On y va.
Voudrais marteler, parce que ça n'est pas su ni des personnes séropositives, ni de beaucoup de personnes séropositives ou séronégatives, peu importe, c'est le fait qu'avec les médicaments maintenant, une personne contaminée peut avoir une charge virale indétectable. C'est-à-dire que le virus n'est plus détectable dans le sang.
Et
dans ce cas-là, elle est intransmissible. Voilà. Ouais, et ça, c'est le message qu'il faut absolument marteler. Auprès des personnes séronégatives comme auprès des personnes séropositives, parce que ça change complètement la donne.
Ah bah c'est noté.
Et c'est, voilà.
Il fallait le dire.
C'est les 25 000 personnes non diagnostiquées qui font l'épidémie cachée et qu'il faut absolument dépister. Donc on insiste toujours sur le dépistage répété et l'aller vers les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas eu accès au dépistage avant. Excuse-moi Stéphane d'avoir été un petit peu long.
Mais c'est pas grave, on vient d'écraser l'agenda, mais c'est pas grave du tout. Allez, très belle soirée Philippe. Ben voilà, on va se dire au revoir tout de suite, ça va être plus simple. On va laisser l'émission suivante avancer tranquillement. Sound on the blues. vraiment une très belle émission. On vous embrasse vraiment très tendrement. On vous souhaite de passer une très très belle soirée, évidemment, et puis de nous attendre avec beaucoup d'impatience, certes, mais de nous attendre dans 15 jours sur 101.5 Radio G, Quasar on the air. D'ici là, faites les fous, faites les folles, battez-vous, défendez vos droits, et puis rejoignez-nous, 15 rue de Jérusalem, c'est Quasar, c'est tout simple, et nous sommes relativement gentils, sauf quand on nous énerve, évidemment. Allez, la belle soirée à vous.
Radio G, 101.5 FM.